Ok, nous sommes à notre cinquième cours sur l'Hilchot Tshuva, le Maïmonide, et on continue. Il y a deux versets contradictoires dans la Bible. Un qui nous dit « Ashrei nesui pesha kesui chata'a ». Bienheureux, celui qui recouvre ses péchés et cache son péché. Deux termes pour dire péché. Et il y a un autre verset qui nous dit celui qui recouvre, qui cache son péché, ne réussira pas. Donc, est-ce que lorsque quelqu'un il a péché, est-ce qu'il doit dire à tout le monde ce qu'il a fait? Comme ça, il est franc, il raconte toutes les bêtises qu'il a fait. Au contraire, c'est bien de le cacher. Ou bien, au contraire, on va dire non, c'est pas bien de cacher parce que c'est comme si. C'est bien de dire, au contraire, tu dis j'ai péché, je fais tchouva, et voilà, comme ça on sait à quoi s'en tenir, et c'est une part de franchise. Alors, en fait, la Gemara et donc, après cela, le Rambam, vont faire une nuance. Ils vont dire tout dépend de quelle sorte de péché. Les péchés qui sont entre l'homme et son prochain, et les péchés qui sont entre l'homme et Dieu. Bien que chaque péché qui est entre l'homme et son prochain, c'est aussi un péché qui est entre l'homme et Dieu. Mais entre l'homme et Dieu, c'est quand entre l'homme et Dieu. D'accord? Alors, les péchés qui sont entre l'homme et son prochain, il est bien de les dévoiler. Pourquoi? Quelqu'un a péché envers son prochain. Et il a fait du mal, il a volé, il a insulté en public. Tout à coup, un beau jour, de nouveau, il lui fait un sourire, les deux se font des sourires. On ne sait pas très bien si c'est vrai. Il dit peut-être maintenant qu'il a un intérêt, pour ça que maintenant il a besoin de lui. Alors, les relations entre les gens ont beaucoup d'intérêt. C'est rare qu'on ait des relations qui sont vraiment pures. Et si deux personnes étaient en froid, maintenant on le revoit en chaud. Il y a anguille sous roche, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, si le pécheur vient et dit, écoutez, en public, il dit comme ça, j'ai péché contre X, et je fais ça et ça et ça et ça. Et maintenant, je me suis rendu compte de ce que j'ai fait, et je regrettais, et je demandais pardon, et je lui ai demandé pardon. Et je regarde ce que j'ai fait, vu que c'est une chose qui est très dure à faire. Alors, on sait déjà que la personne, maintenant, elle est authentique dans sa démarche. Il ne serait pas allé comme ça se faire la honte en public, ce n'est pas vraiment qu'il était un bachouva authentique. Il se peut que dans les raisons qui lui font faire maintenant cette tchouva, il y a qu'il a un certain intérêt. Ça ne nous dérange pas. L'essentiel, c'est que ce soit une tchouva qui soit authentique. C'est une vraie tchouva, que vraiment il regrette en public. Il regrette. Si quelqu'un va en public et le dit en public, certain qu'il regrette. Par contre, en ce qui concerne les relations entre l'homme et Dieu, là, c'est de la chutzpa, c'est de l'insolence. Qu'est-ce que tu te vantes maintenant? T'as mangé du porc. T'as couché avec des femmes interdites. T'as transgressé Kippour. T'étais au Club Med. T'as fumé Shabbat. Tu racontes maintenant toutes les ordures que t'as fait. Qui s'intéresse? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi tu racontes ça? C'est un manque de finesse. C'est un manque de noblesse. T'as péché. Ok. Tout le monde pêche. Ça arrive. Garde ça pour toi. On ne lave pas son linge sale en public. Ça, c'est dit à propos des relations entre l'homme et Dieu. Continue Maïmonide, elle nous dit, bien que la tchouva et les cris vers Dieu sont toujours bien de faire tchouva et de crier vers Dieu, dans les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, ce qu'on appelle les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Tshuva, la tchouva est spécialement belle, et elle est reçue immédiatement. Ça veut dire que durant les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, qui vont bientôt vivre, ce sont des jours très très spéciaux. Et durant ces 10 jours-là, la tchouva, elle est facile. Comme il est marqué, Manuel le Rambam, « Dishu Hashem imatz'o »« Appelez Dieu quand il est là. » Dieu est toujours là. Mais entre lui et nous, il y a des écrans. C'est-à-dire que sa présence n'est pas, on ne la ressent pas. Elle n'est pas aussi palpable que durant les 10 jours de pénitence. Dieu est toujours là, au même titre. Mais est-ce que nous, on le ressent? On ne ressent pas. Parce qu'il n'y a pas un éclairage, il n'y a pas une manifestation de Dieu aussi grande. Durant ces 10 jours, Dieu se manifeste. Il y a une lumière spéciale qui fait que on peut facilement faire tchouva. C'est comme si Dieu, maintenant, il tend la main. Il dit, viens. Viens. Tu ne tends pas la main. C'est marqué de choses terrible. Donc, les tzadikim sont inscrits directement dans le livre du tzadikim, de la vie, les rechaïm dans le livre de la mort, et les moyens, ils restent suspendus. Suspendus, on les pend. On met de la corde au cou, mais on n'a pas encore enlevé le... on n'a pas ouvert la trappe. La trappe, elle va s'ouvrir que le 10e jour. S'il a fait tchouva, alors on enlève la corde. S'il n'a pas fait tchouva, on ouvre la trappe et quick. Quick, on verra, c'est pas un quick forcément matériel, c'est pas un quick spirituel. Tout le monde pose la question. C'est quoi quelqu'un qui est moitié-moitié? Maïmonide dit, il a moitié des mitzvot, moitié avérot. Et Maïmonide va dire, ça dépend, le compte n'est pas, c'est pas un compte au nom de mitzvot et de l'avérot. Il y a des avérot qui sont plus graves, des mitzvot moins graves, des mitzvot qui sont plus importantes, et des avérot qui sont moins importantes. Donc c'est Dieu qui va, d'après la personne, d'après ses conditions, d'après sa conscience, il va calculer la valeur de chaque mitzvot et chaque avérot. Mais à la fin, on arrive à un calcul. Et si on arrive à un moitié-moitié, alors on attend jusqu'à Yom Kippour. Yom Kippour, tu es toujours moitié-moitié, quick. Si tu as fait une mitzvah en plus, alors le bon côté l'emporte et tu es inscrit dans le livre de la vie. Dis Maïmonide, si tu n'as pas fait tchouva, alors forcément il y a quick. On pose la question, je ne comprends pas. Tchouva, c'est une mitzvah. Attends, moi en attendant, j'ai fait la tzedaka, j'ai prié comme il faut. J'ai étudié comme une bombe, j'ai fait beaucoup de grands mitzvot, donc j'ai beaucoup rajouté dans le compte des mitzvot. Donc je suis plus moitié-moitié. Ok, j'ai pas fait tchouva. À cause de ça, quick! Dit le commentateur, oui. Parce que quand Dieu vient, te tend la main. Dieu vient, te tend la main. Tu fais des mitzvot? Ok, il faut faire des mitzvot. Mais moindre des choses, tu tends la main aussi. Tu te jettes. Tu fuis vers Dieu. Des Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, Dieu tend la main. Vous avez déjà essayé de tendre la main à quelqu'un et il ne vous a pas répondu? La honte que ça fait? Tu dis shalom à quelqu'un et il ne te répond pas. La Gemara a dit dans Brachot, Gzilat ani bevatechem, le vol du pauvre est dans vos maisons. Vous avez volé les pauvres. Dieu accuse le peuple juif. Vous avez volé les pauvres. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il a un pauvre? Il n'a rien, un pauvre, c'est un pauvre pauvre qui n'a rien. Qu'est-ce qu'on peut lui voler? On lui a volé son shalom. Quand quelqu'un va dans la rue et te dit shalom, tu ne réponds pas, tu es un voleur. Tu dois répondre shalom. Dieu vient, tend la main. Reviens. Viens, je suis là, je suis venu pour toi. Le Midrash, il dit, c'est un roi, comme un roi, qui vient visiter une ville. Il dit à tous les habitants de la ville, sortez toutes vos ordures et mettez-les dans la rue centrale. Moi, je vais avec la voirie, je débarrasse tout. Dieu demande qu'on fasse le vidouille, qu'on raconte toutes les ordures qu'on a faites. Plus tu dis, mieux c'est. Comme on dit dans la prière de Yom Kippour, Dieu, ton beddin, ton tribunal n'est pas comme le tribunal ici sur terre. Tribunal sur terre, si tu dis ce que tu as fait comme bêtise, on te condamne. Si tu racontes rien, on t'exempte, on t'innocente. Toi, c'est le contraire. Quand tu dis « j'ai rien fait, tout va très bien », alors on nous condamne. Qu'au contraire, on dit à Dieu tout ce qu'on a fait et on regrette, alors ça répare. Donc ces 10 jours-là sont les 10 jours qui sont là où Dieu est là pour nous juger et demande une seule chose. Fais tchouva, reviens, dis-moi toutes les ordures que tu as faites, dis-moi que tu regrettes un peu, j'enlève. Il faut être archi-crétin pour ne pas faire tchouva durant ce temps-là. Un point tel que même si tu avais beaucoup, 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 beaucoup de mitzvot, mais tchouva t'as pas fait. C'est la mitzvah de l'heure qui est tellement importante, c'est tellement crétin que Dieu est là maintenant et tu lui fais comme ça en quelque sorte. Ça ne m'intéresse pas, je m'arrange sans toi. J'étudie la Torah. Que ça mérite la mort. Qu'on s'inscrit dans la livre de la mort, Dieu nous en préserve. Donc ces 10 jours-là sont les jours spéciaux pour la tchouva. De quoi on parle, dit Maïmonide, d'une personne seule. Mais un public, c'est-à-dire 10 personnes juives. Chaque fois qu'ils se réunissent, ils font tchouva et crient le cœur entier, ça veut dire de façon authentique. Il est certain que Dieu leur répond. Comme marqué dans la Torah, Kachem et Lokenu Mechol Korenu. Qui est comme notre Dieu qui répond quand on l'appelle? Pleine promesse. Il faut que tous les 10 fassent tchouva et appellent Dieu avec le cœur pur, ça veut dire plein authentique. T'as 10 personnes qui font tchouva et qui sont authentiques, prient à Dieu, impossible que ça ne revienne pas. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, quelqu'un est agonisant, il a 120 ans, et maintenant tu prends 10 personnes et tu pries, hop, il va encore vivre 100 ans. La prière reçue, c'est-à-dire, prière reçue, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, prière reçue, ça veut dire que ça a un impact. Quand on parle de tchouva, ça a un impact, que ça efface les fautes. Donc, il y a un très grand poids à la prière en public. Nous déconseillons beaucoup aux gens de prier tout seul. Quand on prie en public, ça, le shrina, elle vient. Ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Continue Maïmonide et nous dit Yom HaKippourim, c'est le jour de la tchouva pour tout le monde, que ce soit au niveau singulier, une personne ou le public. Et c'est l'ultime moment du pardon pour le peuple d'Israël. C'est le moment du pardon. C'est pour cela que tous ont l'obligation de faire tchouva et de faire le vidouille Yom Kippour. Obligation de faire tchouva et de faire le vidouille. Quand commence le vidouille de Yom Kippour? Il commence la veille de Yom Kippour l'après-midi. Avant de commencer le jeûne, on va manger. Avant manger, on prie mincha. Et durant le mincha, on fait un vidouille. Après mincha, on finit. Et là, on commence le vidouille. À la fin de la mida, encore les pieds joints. Pourquoi on fait le vidouille avant Yom Kippour? Le vrai moment, c'est de faire pendant Yom Kippour. Explique Maïmonide. Parce que il y a un risque que durant le repas qu'il y a avant la fête, donc après Mincha, quelqu'un. On est très tendu à ce moment-là, c'est à la veille du Kippour. Il s'étouffe et il meurt sans avoir fait tchouva. C'est trop bête. Alors, il fait déjà un vidouille avant, comme ça, s'il meurt. Et j'ai eu un cas dans ma vie, il y avait un minyan à côté de chez nous, pendant qu'on hydrait, crise cardiaque, par terre. Le cœur il bat, c'est Yom Kippour qui rentre, c'est une tension, c'est. Un type qui a le corps un peu fragile. Il peut y passer à ce shalom. Et il y a des cas. Alors lui, c'est bien, il a fait Kol Nidre, là, il est rentré dans le Yom Kippour. Mais quelqu'un, il est mort avant. En train de manger sa soupe avant la fête. Mourir la veille de Kippour sans faire tchouva, c'est trop crétin. Donc Chazal ont institué qu'on fasse le vidou déjà avant Yom Kippour, pendant Mincha. Et, bien qu'on a fait le vidouille avant Yom Kippour, donc à Mincha, on refera le vidouille, seule fois de l'année on fait un vidouille, la nuit avant Chatzot. La nuit avant Chatzot, il y a des forces négatives, des forces de dîme, de rigueur de Dieu. Pas le moment d'aller dire j'ai péché. On ne rappelle pas des péchés le soir, c'est pas bien. Que après minuit, c'est le moment le meilleur de la journée, c'est le moment où on fait les slichot. Ce qui fait slichot avant Chatzot, avant minuit juif, ça tourne autour de minuit 40 ici à Jérusalem aujourd'hui. Celui qui fait les sérotes avant, c'est marqué Mekasses Banetiyot. Il coupe les fleurs. C'est-à-dire, dans les mondes supérieurs, il y a soi-disant des fleurs, d'accord? Il y a des créations extraordinaires. Et lorsque quelqu'un va et rappelle les péchés qu'il a fait avant, alors il coupe. Il coupe tout cela. Tout ce qu'on fait, c'est un petit vidouille avant d'aller dormir. Donc on va dormir, quelqu'un va dormir avant Chatzot, avant minuit. Il ne peut pas aller dormir sans faire choix de sa journée. Alors il dit, il fait un petit vidouille, d'accord? Le grand vidouille qu'on fait à Yom Kippour, ou les slichot, où on rappelle pendant une heure les péchés qu'on a fait, il y a 12 vidouim dans slichot, il y a 12 fois, on rappelle l'alef bet. Des fois à l'enfer, des fois à l'envers, des fois à l'endroit. Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, alef bet gimel. Faudrait d'autres. Anenu, Avinu, alef. Anenu, Borenu. Anenu, Goalenu. Etc. Alef bet gimel. Comme ça, 12 fois, on dit des paroles avec l'alphabet. Tout cela correspond à des. On fait intervenir les lettres de l'alphabet, les lettres qui sont les lettres de la Torah. Le monde le plus haut qu'il puisse y avoir, il descend, cette lumière de Torah descend dans tous les mondes qu'on a gâchés, qu'on a cassés, qu'on a bousillés avec nos péchés, et ça répare tout. Mais ça, on peut le faire qu'après minuit. La seule fois où on le fait aussi avant minuit, et on fait slichot avant minuit, c'est dans le soir de Yom Kippour. On fait la Mida de Arvit. On fait vidouille après cela, et après on fait les sérotes. Ok? Donc, on refait le vidouille le soir. On refait le vidouille dans Shachrit, on fait le vidouille à Moussaf, on fait vidouille à Mincha, on fait vidouille à Ne'ila. 5 prières, il y a dans Yom Kippour. Plus celle de Mincha, ça fait 6. Maintenant, on ne fait pas un seul vidouille. Nous, on fait un vidouille après la Hamida. Dans Mincha, Arvit, Shachrit, Moustaf, Romincha et Neila, ces 6 prières, on fait le vidouille après la prière. Le Shachar Tzibour, il fait la répétition, la Chazara, la répétition de la Hamida, et lui dit le vidouille dans la Hamida. Et nous, on refait vidouille avec lui aussi. Ça nous fait 10 vidouilles pour Yom Kippour. Un de Mincha, un de Arvit, et les 4 autres qui restent, il y a aussi Yann Chazara, Ashachit, Moussaf, Mincha, Enila, Yann Chazara. Donc on refait le vidouille avec le Shalir Sebo.
Ce qu'on fait après la Chazara, Ashachit, Moussaf, Mincha, Enila,
oui.
Ça s'appelle un vidouille aussi.
Oui. Donc on fait un vidouille dans notre prière à nous à voix basse.
C'est Arvit aussi. Arvit, on fait Arvit, on fait
oui, mais
il y a tous ensemble, il n'y a pas de Chazara, et on fait le vidouille après.
Oui, mais ça c'est dans les Slichot.
C'est ça?
Ouais, ok, c'est vidouille, Slichot, c'est autre chose.
Alors dans ce cas-là, d'accord.
C'est le vrai grand vidouille qu'il y a dans la Hamida en prière, il n'y en a que 10. Ok.
Juste pour vous disiez qu'on ne peut pas faire le vidouille avant le Khatsed, comment on fait pour faire le Shema Lamita?
J'ai dit, à part ce petit vidouille qu'on fait dans le Shema Lamita, ça va, mais faire un grand vidouille comme on fait à Yom Kippour, où on rappelle tous les péchés possibles, imaginez un Shabno. On dit là-bas, Al-Chet Shachatano, comme ça, Al-Chet Shachatano, Al-Chet Shachatano, tout, t'as toute une série, Alef Bet, après à l'envers, t'as fraîché, etc. Ça.
C'est exactement, en fait, au niveau
mystique. Tu fais intervenir les lettres. Et les lettres, c'est le monde le plus haut qu'il y a. Dieu se dévoile par des lettres. Des lettres, c'est quoi? Lettres, en hébreu, se dit hot. Hot signifie quel autre mot en hébreu? Signe. C'est-à-dire que la lettre, elle, en fait, elle est un signe. Un signe de quoi? D'autre chose. Tu fais un signe pour signifier autre chose toujours. N'est-ce pas? Donc les lettres, elles sont un signe d'une autre chose. Quelle autre chose? D'une lumière divine. Il y a 22 lumières divines avec lesquelles Dieu a créé le monde. Ce sont les 22 lettres de l'alphabet. C'est parce que Dieu a créé le monde avec la Torah. La Torah, c'est aussi son des forces divines. Elle est composée de 22 lettres divines, des compositions, des combinaisons des 22 lettres divines auxquelles correspondent les lettres Aleph, Bet, Gimel. C'est pas que dans l'ancienne, tu as Aleph, Bet, Gimel, comme pourraient croire les enfants, d'accord? Tu as des forces divines. Ce sont les forces les plus hautes qu'il puisse y avoir. C'est le dévoilement, le premier qui sort de Dieu lui-même. Plus bas, tu as d'autres mondes. Quand nous faisons des péchés, nous pouvons aller et détruire les mondes supérieurs, nos âmes. On détruit le monde, on détruit la spiritualité du monde. Il faut réparer. Comment? Yom Kippour, on a un pouvoir, on peut aller, quand on a 5 prières, on reçoit le niveau de la 5e neshama que nous avons. On a 5 neshama, 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yachida. La seule fois où on a 5 prières durant toute l'année, c'est Yom Kippour. On arrive au 5e degré, Yachida, on est un. On est uni avec Dieu, on est comme des anges. Là, on peut aller à un niveau tellement haut, où par nos prières, et par nos pleurs, par nos tchouvas, on fait agir ces lettres-là, cette lumière qui descend dans tous les mondes, et nettoie. La lumière de Dieu, elle va nettoyer toutes les obscures obstructions que tu as faites. L'obscurité que tu as fait, l'obstruction que tu as fait, toutes les cochonneries qu'il y a maintenant dans les mondes supérieurs de ce que tu as fait, par Tchouva, elle est nettoyée. Comment on a fait actionner donc ces lettres-là? C'est pour ça qu'on fait aussi le vidouille, d'après les lettres de l'alphabet. Yes! Les péchés, à propos desquels on a fait Tchouva déjà Yom Kippour l'année passée. L'année passée, j'étais au Club Med. Et là-bas, je ne te dis pas qu'est-ce que je n'ai pas fait. J'ai mangé des langoustes. J'ai pas fait Shabbat. J'ai fréquenté Ingrid. Bon. En tout cas, j'ai fait Tchouva. Et Yom Kippour pour l'année passée, j'ai fait une Tchouva. Il y avait une flaque autour de moi par terre à la synagogue. Tchouva, Shlema, Gumura, terminé. Et depuis, Baruch HaShem, ni club, ni langoustes, ni Ingrid. Terminé. Je vais aller Shiva, Baruch HaShem. Vient ce Kippour. Je n'ai pas repêché. Est-ce que je rappelle maintenant Ingrid la langouste, le Club Med? Oui. Bien que je n'ai pas repêché, il est bien de rappeler Yom Kippour, ce nouveau jour de Tchouva. On regrette de nouveau et on rappelle les péchés qu'on a faits. Comme il est marqué, Kifshaï aneda pachatati negitamin, comme dit le roi David, car mon péché je le connais et mon péché est devant moi toujours, j'oublie pas. C'est vrai que c'est effacé, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Le jour de Kippour, on ressort les classeurs, et on reprend tout, et on va de nouveau, on repasse une couche de tchouva sur tous les péchés qu'on a fait.
Quelqu'un qui a fait beaucoup de péchés dans sa vie.
Ok, il n'y a pas besoin d'aller dire, j'ai pas dit Ashraya Sar le 17 janvier 1986, et j'ai touché un morceau de Moukhtse aussi, le Shabbat. Je dis en général. J'ai pas fait Shabbat comme il faut, j'ai fait encore des défis comme il fallait pas, j'ai fait Zer Ale Batala, j'ai fait Chilou Shabbat, j'ai mangé à Kippour, et voilà, j'ai pas dit regarder des filles, j'ai regardé des films qu'il ne faut pas regarder. Tout ce que tout le monde sait très bien, voilà, alors là tu fais en bas, allez, chaque petit détail chaque fois. La Tchouva et Yom Kippour n'excusent que les péchés entre l'homme et Dieu. Mais les péchés qu'il y a entre l'homme et son prochain, Yom Kippour n'excuse pas. Sachez qu'il y a un avis qui dit pire que cela. La halakha n'est pas comme ça, mais il y a un avis qui dit cela, qui dit que si quelqu'un n'a pas réparé les péchés qu'il y a entre l'homme et son prochain, même les péchés qu'il y a entre l'homme et Dieu ne sont pas réparés. Terrible.
Les péchés qui sont impossibles à réparer.
Tels que.
Sur la future avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue, c'est pas vous la vie, on ne reverra jamais.
Ok. Si quelqu'un a fait du mal à quelqu'un qui ne connaît pas, ou à beaucoup de gens qui ne connaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un bien public qui pourra aider le public. Et si sa tchouva est pure et complète, alors nous sommes convaincus que Dieu va faire en sorte que la personne qui a souffert ou ses descendants profiteront de ce bien public. T'achètes un banc public, t'achètes un Sefer Torah, t'achètes un sidour au Kotel. Tous les juifs ont une fois au Kotel, une fois dans leur vie. Lui viendra, prendra ton sidour. Ça vaut bien 40 shekels. Ben, tu l'as rendu déjà 40 shekels. Après, ses enfants viendront. Etc. En fonction, quelqu'un qui a volé par exemple le public. J'ai le jour à la station d'essence. Et je paye, il me rend 10 centimes en moins. Oh, enfin, fais attention, je ne vais pas relever. Une deuxième fois, de nouveau, une semaine plus tard, je fais le plein, 10 centimes en moins. Alors, troisième fois, de nouveau, 10 centimes en moins. J'ai compris. Lui, il en a toujours 10 centimes en moins. D'accord, c'est un truc. J'ai connu quelqu'un qui était dans les marchés. Il vend toujours quelques grammes. Il ferme le paquet, très comme ça, et quand il tourne, hop, il y a une pomme qui part.
C'est une des trois erreurs qu'on ne remonte pas du gagnant.
Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il a volé maintenant le public. Pas une, pas mille, pas 10 000, des centaines de milliers. Comment il fait Tchouva? Bonjour, il fait Tchouva, ça arrive. Bah, Ouchachan, il fait Tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va faire le calcul combien il a gagné comme ça en volant. Voilà, même somme, il doit maintenant faire acheter un bien. Pas obligé d'un coup, il n'a pas les moyens, il peut faire ça échelonné sur toute sa vie. Mais il faut que le public puisse profiter de ce qu'il a été lésé. Et on espère que Dieu fera en sorte que la personne lésée elle-même profitera de cette chose-là. Et dans ce cas-là, ça sera complètement effacé. Mais si on sait à qui on a péché, alors on peut s'épandre en pleurs par terre, Yom Kippour, ça ne sert à rien. Il faut aller lui demander pardon. Non seulement pardon, mais restituer ce qu'on lui doit. On peut lui demander pardon, lui dire, écoute, je ne sais pas de quoi payer maintenant, fais-moi échelonner, et ça va aussi. On aura un Beit Din, on fera quelque chose, on aura un tribunal rabbinique qui va statuer dans quel échelonnement, d'accord, on va dire tous les mois, 1 euro, pour 10 000 euros volés, c'est pas, ça ne se fait pas. Mais on doit lui demander pardon à la personne. Même si on n'a pas volé, on lui a fait du mal. On lui a dit un jour, trip imbécile, on n'a pas souri, il a été blessé par nous, par quoi que ce soit, la chonara. Il faut aller demander Mechila. Sinon, ce n'est pas excusé.
Si on a trop fierté, on ne peut pas aller voir la personne qui s'excuse et tout. On ne peut pas faire qui pour. Je ne sais pas si vous ne savez rien.
Alors, je dis que l'avis qui dit que si on n'a pas demandé pardon à son prochain, même envers Dieu, c'est pas pardonné, la lacha n'est pas comme ça. La lacha dit, au moins fais tchouva sur ce que tu as péché entre.
Ah, c'est ça, vous venez dire que d'abord, la chine bonne fait par terre, ça va.
Non, j'ai dit, quelqu'un maintenant, il a manqué d'honneur à son père. Ce qui est le cas de tous les gens moyens sur terre, d'accord? Maintenant, il est en bisbise avec son père. Il ne peut pas baisser le nez. Il fait tchouva, Dieu, j'ai transgressé kibbout d'Abraham. Ok, t'es très gentil. On va demander pardon. Dieu, j'ai volé. On va rembourser. Je parle de la Shonara. On va demander pardon. Les péchés entre l'homme et son prochain ne sont pas pardonnés par la tchouva qu'on fait entre l'homme et Dieu. C'est insuffisant. Il faut le pardon du prochain. Et il faut s'écraser. Pas facile ? Pas facile. Maintenant, que faire si la personne en face de toi, elle ne pardonne pas ? Là, ça devient... Alors voilà, on y est. Son prochain n'a pas voulu lui pardonner. Il amène une lignée de trois personnes, des amis, des gens bien, des gens honorables, qui vont aller parler et lui demander « Pardonne-le ». Il n'a toujours pas voulu. Il amène une deuxième délégation. Il n'a pas voulu. Troisième délégation.
Trois personnes chaque fois.
Ouais.
La même, c'est pas la même. C'est un
baissé.
C'est pas la même délégation.
C'est un
baissé. Pourquoi c'est au contraire beaucoup moins rabat, c'est pas toi qui y vas. Tu envoies trois personnes à ta place. Au bout de trois fois, si la personne ne veut toujours pas pardonner, alors on a fini, terminé, et c'est celui qui n'a pas pardonné qui est fautif. À part une exception dont parle le Rambam, et une deuxième exception dont parle Shulchan Aruch. Son rave, messieurs, t'as fait comme ça à ton rave, et il ne veut pas pardonner, même mille fois, c'est-à-dire ensof, infini, il faut aller revenir. On va d'irrigation tous les jours, jusqu'à ce qu'il pardonne. C'est qui son rave? Son rave, c'est la personne duquel on a appris la majeure partie de nos connaissances. Ça peut être votre rave de Gemara ici, dans lequel vous êtes dans le cours. Ça peut être appeler votre rave. Donc attention, on ne peut pas parler de Shonara sur le rave. Deuxième cas, ne rappelle pas ma Rambam, c'est marqué Shulchan Aruch, c'est on a fait Otsat Shemra. Motsi Shemra, c'est quoi? On a dit à la Shonara sur quelqu'un, donc une chose négative sur quelqu'un qui n'est pas vrai. Est-ce qu'il est toujours en retard, lui? Il exagère toujours. Un petit mot comme ça. Toujours exagère. Jamais dit la vérité. Jamais. Il manque comme il respire. Il manque comme il respire. Peut-être un peu moins. C'est déjà exagéré. Otsat Shemra. Ça, même mille fois, tu peux lui demander pardon. Lui, il n'a qu'une mesure de piété de bien vouloir pardonner. Mais Alpidi, il ne peut pas pardonner. Et vas-y, reviens.
Et la faute, elle reste.
Il faut qu'elle reste. Il faut qu'elle reste. Bien sûr qu'elle reste. C'est quoi, Otsat Shemra? C'est une chose affreuse. Et puis, il n'a rien fait. Il est hyper cachère. Tu viens, tu inventes des choses sur lui.
Par contre, si c'est quelque chose de vrai, il n'y a pas de problème.
J'ai vu hier Alexis à Ben Yehuda en train de prendre les mains avec Ingrid. T'imagines? Attends, lui, c'est faux. Et il y a un bruit qui court comme ça dans la yeshiva. Où il se met, le pauvre? Je ne comprends pas. Je suis cachère. Je suis... Raconte des trucs sur moi. C'est terrible comme truc. C'est que tu l'as assassiné. Il ne peut rien faire. C'est vrai, c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
C'était pas Ingrid.
C'était qui? Mais par contre, donc, si c'est vrai.
Si c'est vrai, c'est la Shonara.
Trois fois, ça marche. Ça marche.
Si c'est vrai, c'est la Shonara, ouais.
D'accord.
Ouais. Continue Maïmonide et nous dit, il est interdit à la personne d'être cruelle et de ne pas vouloir s'apaiser et leur pardonner. Ah, je vais le faire maintenant. Tu m'as fait comme ça? Allez, vas-y, remonte-moi, envoie encore une délégation et encore. Interdit. Et là, mais il est noir les ratzot. Il doit facilement être apaisable et difficilement se mettre en colère. Lorsque le pécheur lui demande pardon, qu'il pardonne le cœur entier et avec le nefesh, chafetza, avec envie. Pas de problème, pardonner, mahoullah, du fond du cœur. Même s'il lui a fait beaucoup de mal, il ne doit pas garder cela dans son cœur et encore moins se venger. Ça, c'est la voie de Zera Israël, de la verra la descendance d'Israël et leur cœur droit. Et leur cœur droit. Logiquement, un goy, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu m'as fait du mal. Tu viens, tu me dis avec qui pour pardon, je t'ai fait du mal. Dégage. Pour dire, pardon, je fais du mal, c'est rien. Faut qu'il vienne et qu'il dise, enfin, vraiment, je regarde ce que j'ai fait, tout ça. Mais quelqu'un peut dire, tu m'as fait du mal, je souffre. Je souffre, je peux pas te pardonner. Alors, une ou deux fois, peut-être, ça peut encore marcher. J'ai entendu parler de grands rabbins qui faisaient ça. Qui venait lui demander pardon, il dit, ok, reviens dans une semaine. Je peux pas te pardonner maintenant, il faut que je travaille du moussard sur moi-même. Je pense que le rabbin pouvait tout à fait sur place pardonner. Mais vous voulez que la personne fasse un peu d'éducation, l'éduquer un peu, que pas si facilement on fait des grosses bêtises, après on demande pardon et c'est terminé. Mais la personne doit savoir que tout ce qui lui arrive, c'est Dieu qui l'a envoyé. Elle n'a pas en vouloir à personne, qui que ce soit au monde. L'autre était un envoyé de Dieu. C'est pas facile. Surtout la personne nous a fait beaucoup pécher. Le Messie Charim dit c'est facile que pour les anges qui n'habitent pas dans des corps. Mais quelqu'un qui est dans un corps qui souffre, il ressent la souffrance. 10 ans, il m'a fait l'enfer. Maintenant, il demande pardon, je peux pardonner comme ça et tout, et c'est effacé vraiment. T'as dit pardon, terminé. Mais, dit Messie Charim, Gzerat Meler, c'est un décret du roi. Dieu a ordonné.
Si quelqu'un a pardonné, il n'a pas pardonné dans le cœur. Il dit oui, j'ai pardonné, mais dans son cœur, il a encore rancœur. C'est pardonné quand même?
C'est pardonné.
Et elle n'a pas de conséquence, cette rancœur-là?
Toi, t'as pas le droit d'avoir de la rancune.
Après, c'est un combat, celui qui...
Combat avec soi-même. Ouais. La vérité, l'expérience, c'est la rancune. Elle vient, elle part. C'est l'imagination qui te fait revivre le film et... Tu lui en veux un peu. Après, t'as raison de dire non, bon, ça va, c'est terminé, c'est Dieu qui a fait, c'est réglé, voilà, ça lui était... Allez, c'est pas grave. T'as pas ta bonne note. C'est une bagarre qu'il y a entre notre raison et notre cœur. C'est une bataille qui est difficile. Elle est facile que pour les anges, messieurs. Mais elle est nécessaire. Gzerat Meler, c'est un décret du roi. Celui qui a péché contre son prochain, et son prochain est mort avant qu'il ait pu demander pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 10 personnes. Et il va sur la tombe de cette personne. Et devant eux, il dit, « Khatati Lachem Elokei Israël. J'ai péché devant Dieu, le Dieu d'Israël, et à un tel. » Que je lui ai fait comme ci, comme ça, et comme ça, et comme ça. Tu dis tout ce que tu lui as fait.
10 hommes ou 10?
10 hommes. Et si il lui doit de l'argent, il rembourse l'argent à ses héritiers. S'il ne connaît pas les héritiers de la personne, il met l'argent au Bedin. Il dit au tribunal, voilà, moi j'ai volé 10 000 $ à cette personne, je ne connais pas ses héritiers, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Tenez, voilà, comme ça moi je sais ce que je vais faire, et le Bedin s'arrangera quoi faire avec cet argent-là. Chacune des personnes, chacun des êtres humains, a des mérites et des péchés. Celui qui a plus de mérites que de péchés est appelé tzaddik. Celui qui a plus de péchés que de mérites, il est appelé racha, mécréant. Moitié-moitié, il est appelé benoni. Il est moyen. De même, un pays. T'as un pays qui, dans l'ensemble du pays, t'as plus de péchés, c'était appelé un pays rachat, mécréant. Si c'est une majorité de mérite, c'est pays sadique. Si c'est moitié-moitié, benoni. De même, le monde entier aussi. Une personne dont les péchés sont majoritaires par rapport au mérite. Immédiatement, il meurt. Par son péché. De même, un pays entier qui aura plus de péchés, immédiatement, le pays disparaît. C'est le cas de Sodome et Gomorre. Le monde entier, s'il y a plus de péchés que de mérites, le monde disparaît, comme c'est le cas durant le déluge. Et ce calcul, comme j'ai dit auparavant, n'est pas d'après le nombre de péchés et le nombre de mitzvot, de mérite. Il y a un mérite qui vaut comme beaucoup de péchés et un péché qui vaut comme beaucoup de mérite. C'est Dieu da'ato shel el de'ot, dans la connaissance du Dieu de la connaissance, Dieu qui sait, qui va faire ce calcul et il sait comment faire ce calcul. Là, il y a un problème, parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont, il semblerait assurément, ils ont plus de péchés que de mérites, et pourtant on voit qu'ils survivent. À mon humble avis, je n'ai pas vu ça écrit, je pense que ça se passe comme ça. Quand quelqu'un fait un péché, alors quelque part, il y a une facture. Du moment qu'on lui met ça sur sa facture, alors c'est comme si le péché, il est payé. La facture, qu'est-ce que ça sera? Des souffrances. La souffrance est une facture. Là, j'ai fait un cours, beaucoup de cours sur la souffrance, parce que la souffrance est une participation, malgré soi, de l'être. La souffrance, elle répare le péché. Donc, du moment qu'il a souffert, ou du moment qu'il est clair qu'il va souffrir, c'est déjà marqué, c'est enregistré dans son programme pour cette année, contrôle fiscal. Donc ça rétablit déjà à moitié-moitié.
Comment on peut être béni? C'est difficile. Comment on peut faire pile?
Je vais expliquer maintenant.
C'est que Hachem, il fait en sorte que
ça n'existe pas pile.
Car
ou plus, ou moins. Pourtant, il semblerait qu'on a vu que la majorité des êtres humains sont considérés comme pile, comme moyen. Comment expliquer une chose pareille? À mon humble avis, quand quelqu'un a des mitzvot, alors on lui paye du bonheur sur terre. Quand quelqu'un a des averot, on lui paye des malheurs sur terre. Et ça rééquilibre à rester en moitié-moitié.
Il ne peut pas être payé son mention de la...
Alors, il y a les mitzvot, on te paye déjà un peu. On peut... C'est vrai que les mitzvot, on ne paye pas dans ce monde. C'est marqué, les mitzvot, il y a quelques mitzvot que le capital reste dans la mamba, mais les intérêts sont déjà dans ce monde-ci. Il y en a beaucoup. Tout ce qui est chassé, tout ce qui est Talmud Torah, bien que tout ce qui est mettre la paix entre les gens, tout cela, le capital reste pour la mamba, et les intérêts sont déjà ici sur Terre. Ce qui fait que la personne, elle reste moitié, moitié, toujours. Tout celui qui fait une tchouva à l'envers, il regrette les mitzvot qu'il a fait, et il dit, qu'est-ce que j'ai été idiot de faire, j'ai passé un an à la yeshiva. Quelle perte de temps totale. C'est une tchouva à l'envers. Il reconnaît, j'ai passé un an à la yeshiva. Je regrette. Et plus jamais je ferai un truc pareil, c'est tordu. Mais ça existe. Alors, de même que la tchouva efface les péchés, la tchouva à l'envers, elle efface les mérites. Il vient là-bas, pas de année à l'échiva. Terminé. Attention, ça peut arriver très facilement. Quelqu'un a donné un staka et puis il regrette. T'as vu, maintenant j'ai donné, j'ai pas de quoi me payer maintenant mon costume pour la fête. Plus de mitzvah. C'est donnant-donnant. Pourquoi est-ce que la tchouva marche que dans un seul sens? Il faut faire attention. Tu as fait une mitzvah, tu ne regrettes plus jamais de l'avoir fait. Baruch Adonai, l'homme va, mais...